Toujours une joie de plonger ensemble nos regards dans la parole de la vraie liberté. Vivre pour Dieu, pourquoi, comment? Alors j'espère, par la méditation qui va suivre, vous proposer quelques pistes de réponse. Et pour ce faire, je vous invite à méditer un très court texte tiré de l'épître de Paul aux Romains, les deux premiers versets du chapitre 12, et ce sera dans la version Bible du Summer. Je lis la parole de Dieu. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voici un texte court, très court, mais un texte extrêmement riche. Par la densité des expressions utilisées par Paul et riche par le contexte dans lequel ces deux versets se situent. Ces deux versets se situent en effet à un tournant dans la lettre, à savoir le passage de la partie doctrinale, théologique de l'Épître, les 11 premiers chapitres, où Paul expose en long en large la justification par la foi seule grâce à l'œuvre du Christ à la croix, à la partie exhortative, éthique, pratique, qui couvre les chapitres 12 à 15, où Paul tire les conséquences concrètes en termes de comportement de l'adhésion à une telle foi. Je vous exhorte donc. Notre texte est donc riche de tout ce qui précède et il pose de manière synthétique le programme des chapitres suivants, c'est-à-dire ce que doit être le comportement chrétien. Dit autrement, ces versets sont comme un résumé de l'éthique qui découle de la foi chrétienne, de ce à quoi nous sommes appelés si nous croyons en Jésus-Christ. Et s'ils sont un résumé de l'éthique chrétienne, ce qu'on peut dire, vous en conviendrez, c'est qu'elle est pour le moins radicale. Puisque Paul, dans ses versets, appelle les chrétiens à rien de moins qu'à un don total de leur personne, à un anticonformisme social et à un renouvellement complet de leur façon de penser. Alors sans doute que cette radicalité de l'évangile vient nous bousculer un peu en cette période estivale de vacances, mais c'est pourtant bien le défi que Dieu nous lance, un défi qui nous renvoie à la démesure première et constante de la grâce de Dieu envers nous. En effet, avant d'examiner plus précisément ce que Paul veut dire par « offrir son corps comme un sacrifice vivant », être transformé par le renouvellement de sa pensée, je voudrais que nous nous arrêtions sur ce qui motive ces exhortations, sur leur source, leur carburant, à savoir l'immense bonté de Dieu. Oui, Paul commence ainsi la partie pratique de son épître. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de l'immense bonté de Dieu. À cause de l'immense bonté de Dieu. Voilà des mots qu'on lit peut-être un peu vite, alors pourtant que ces mots sont décisifs pour toute la manière dont nous allons ensuite lire, recevoir, vivre les recommandations exigeantes données par Paul dans la suite de son propos, et j'en cite quelques-unes. Appel à se mettre humblement au service les uns des autres, appel à placer l'intérêt des autres avant le nôtre, appel à être un artisan de paix, appel à ne pas répondre à l'injustice par la violence, mais à faire du bien, à aimer ses ennemis, à être des citoyens exemplaires, etc. Alors oui, ces mots, à cause de l'immense bonté de Dieu, sont importants parce que ce qui est en jeu au fond, c'est la raison pour laquelle nous voulons faire le bien. Est-ce que toutes ces bonnes œuvres auxquelles Dieu m'appelle, je vais les faire pour gagner son amour? Ou est-ce que ces œuvres sont le fruit d'une vraie gratuité, d'un vrai désintéressement, au fond d'un véritable amour? Est-ce que je crois que Dieu m'aimera quand même un peu plus si je fais toutes ces bonnes œuvres, et un peu moins si je ne les fais pas? Ou est-ce que ces bonnes œuvres jaillissent de ma reconnaissance pour l'amour que Dieu m'a déjà parfaitement donné, d'un cœur déjà assuré de l'amour de Dieu pour lui? Il me semble que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ces questions sur nos motivations ne sont pas de petites questions. Elles vont chercher profond en nous, tant nous sommes dans une société du mérite, mais elles sont fondamentales si nous voulons agir de manière chrétienne. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de l'immense bonté de Dieu. C'est bien, selon la formule consacrée, parce que nous avons été sauvés, que nous sommes appelés à vivre pour Dieu et non pour être sauvés. C'est parce que nous avons été sauvés que nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres et non pour être sauvés. Et je voudrais ici rappeler que l'immense bonté de Dieu dont je parle, ça n'est pas quelque chose d'abstrait. Non, c'est quelque chose de très concret, de très réel, de tangible, que Paul vient d'exposer longuement dans les chapitres 1 à 11. L'immense bonté de Dieu, c'est l'œuvre historique, une fois pour toutes, de la croix, du Christ qui nous rend justes alors que nous sommes pécheurs et coupables. C'est le Christ qui s'est donné pour nous alors que nous étions ses ennemis. C'est l'œuvre de l'Esprit qui déverse en nous l'amour de Dieu et nous permet d'appeler Dieu Père. C'est cet amour de Dieu dont nous ne pouvons être séparés par absolument rien, même pas la mort. C'est l'espérance de la résurrection. Alors oui, c'est encore et toujours la conscience de l'amour parfait et immérité de Dieu pour nous qui doit être la motivation de notre vie. Et nous avons besoin d'en revenir toujours là, à l'amour immérité de Dieu pour nous. En ce sens, l'éthique chrétienne, le comportement chrétien, n'est pas d'abord de l'ordre du devoir, c'est de l'ordre de la reconnaissance. L'éthique chrétienne n'est pas d'abord une éthique du devoir, elle est d'abord une éthique de la reconnaissance. Je vous laisse quelques instants. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Du coup, c'est bien parce que notre éthique est une réponse à la grâce première démesurée de Dieu, qu'elle est une éthique qui nous engage de manière aussi radicale. Je vous invite donc, frères et sœurs, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Et voyons donc maintenant de plus près ce verset, parce que c'est un verset pour le moins dense. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce terme de sacrifice, Paul nous renvoie une image très forte de ce à quoi nous sommes appelés. Il me semble que cette image nous dit que Dieu ne nous demande pas tant quelque chose, mais que c'est nous-mêmes qu'il demande, toute notre personne. Non pas tant quelque chose, mais notre personne. Alors comprenons-nous bien, Paul ne parle pas d'un sacrifice au sens littéral, il ne nous suggère pas de pratiquer une sorte d'autoflagellation. Le Christ a expié nos péchés une fois pour toutes. Non, Paul parle d'un sacrifice au sens d'un don de soi, à l'image de Jésus qui a fait don de lui-même pour les autres. Et à cet égard, il est intéressant de voir que Paul précise bien l'offrande de nos corps. L'offrande de nos corps. Il me semble ici que Paul, en disant nos corps, Paul nous met en garde contre une disposition au don de soi qui se limiterait à un simple élan de cœur, à une bonne résolution, mais qui resterait sans effet concret. Au contraire, Paul souligne en disant nos corps que cette offrande de notre personne se joue dans le concret et le quotidien de nos vies, parce que c'est avec notre corps que nous entrons en relation avec les autres. C'est avec nos corps que nous agissons. Une bouche pour encourager, des mains pour donner, des oreilles pour écouter, des bras pour embrasser. Alors oui, alimentée par notre propre reconnaissance envers Dieu, l'éthique chrétienne est une éthique du don de soi, dans le concret du quotidien. Et voici comment Paul qualifie ce don vivant, saint et qui plaise à Dieu. Les trois termes vont ensemble, mais chacun a un angle de vue particulier. Vivant, tout d'abord. Alors, vivant, vous l'aurez bien compris, non pas biologiquement, même si c'est un préalable, mais vivant spirituellement parce que mort au péché. Paul l'écrit au chapitre 6 de la même épître, au verset 11, « Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Autrement dit, nous offrir à Dieu et aux autres implique de rompre avec le péché, c'est-à-dire avec tout ce qui est destructeur pour autrui. Saint, ensuite. Saint, c'est-à-dire consacré, appartenant pleinement à Dieu. Oui, dans l'union à Christ, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons fondamentalement à Dieu. Nous ne sommes plus notre propre maître, mais c'est le Christ qui est notre Seigneur. Et nous sommes donc invités à nous soumettre à sa belle autorité dans tous les domaines de notre vie d'église, notre travail, notre vie de couple, etc. Enfin, agréable, c'est-à-dire qui plaît à Dieu. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu ? Eh bien, ce qui est conforme à sa volonté, une volonté qu'il a révélée dans sa parole, et en particulier dans les chapitres 12 à 15 de l'Épître aux Romains. Un sacrifice donc vivant, saint et agréable à Dieu. Et comme pour nouer le tout, Paul nous dit que ce sera là de notre part un culte spirituel, ou selon les traductions, un culte raisonnable. Alors je vous épargne le débat, mais ce qui ressort dans les deux cas, c'est la particularité du culte chrétien. En effet, le culte chrétien, ce ne sont pas simplement les 2 heures du dimanche matin. C'est toute notre vie qui est appelée à être un culte qui honore notre Dieu. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de l'immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Maintenant, comment concrètement peut-on réussir à être dans notre vie quotidienne avec tout ce qu'elle comporte de pression, de défis, de stress, de mauvaises habitudes, cette offrande vivante, sainte et agréable à Dieu? Eh bien, je crois que Paul nous donne la réponse dans le verset 2. En effet, ce verset, « Ne vous conformez pas au monde, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », ce verset n'est pas, selon moi, une exhortation parallèle, différente, que Paul adresse aux chrétiens de Rome. Mais il est subordonné au premier verset. Autrement dit, il donne les moyens nécessaires par lesquels nous pourrons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Dit autrement, nous ne pourrons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu que si et seulement si nous ne nous conformons pas au monde actuel, mais que nous sommes transformés dans notre manière de penser. Nous ne pourrons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu que si et seulement si nous ne nous conformons pas au monde actuel, mais que nous sommes transformés dans notre intelligence. C'est ainsi à une double attitude que nous sommes appelés. D'un côté, avec le premier verbe, ne pas se conformer, c'est une attitude négative de rupture, de retrait, d'éloignement. Alors qu'avec le second verbe, être transformé, c'est un changement positif en nous qui est en cause. Ne pas se conformer à ce monde dans un premier temps. C'est ici un appel à être un peu comme des saumons qui nagent à contre-courant de la rivière des idées, des attitudes, des habitudes de ce monde. Et le monde, je le précise, ce n'est pas la bonne réalité créationnelle de Dieu. Le monde ici, c'est cette puissance mauvaise qui s'oppose à Dieu et à sa volonté et qui défigure tout. C'est la logique du péché. Alors un exemple de cet état d'esprit du monde que l'on peut déduire par la négative des exhortations de Paul qui suivent, c'est entre autres l'esprit de division, de convoitise, d'égoïsme, d'injustice, d'exclusion, de violence, etc. Paul nous exhorte à refuser cette mentalité, à y résister, et le temps employé dans l'original, dans la langue grecque, montre que c'est continuellement qu'il faut résister. Ça ne se fait pas en une seule fois, c'est continuellement qu'il nous faut résister. Et c'est bien pour cela que nous avons besoin d'être transformés dans notre intelligence, c'est le deuxième aspect. Une précision ici, par intelligence, il ne s'agit pas de notre capacité à maîtriser des données théoriques. C'est bien plutôt toute notre attitude intérieure, nos pensées, notre volonté, nos désirs même, qui sont en jeu. Oui, soyez transformés dans ce qui vous habite intérieurement. Et littéralement, le verbe utilisé veut dire passer par une métamorphose. On pourrait dire naissez de nouveau, ou peut-être de manière plus actuelle, reprogrammer votre ordinateur interne. Enfin, reprogrammer, mais faites aussi régulièrement des mises à jour. Puisque, comme précédemment, le temps employé en grec montre que la conversion de notre intelligence est un processus continu et non ponctuel, une seule fois. Et ce processus, me semble-t-il, c'est le Saint-Esprit qui en est le chargé de mission. Alors, il n'est pas mentionné explicitement, mais pour moi, c'est indiqué par le fait que le verbe « soyez transformé » est au passif. C'est pas « transformez-vous », mais « soyez transformé ». Autrement dit, ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons changer, mais nous avons besoin de l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Ainsi, l'éthique chrétienne est une éthique réaliste, parce qu'elle est sans illusion sur nos capacités propres. Et c'est une éthique de la conversion continuée, dont le but est de pouvoir discerner comment agir. Tellement important de savoir discerner comment agir de manière appropriée ici et maintenant. C'est là qu'il est important de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a les frères et sœurs dans la foi, qu'il y a l'Église. L'Église comme un lieu où nous pouvons réfléchir ensemble, nous encourager les uns les autres, et l'Église comme un lieu où nous pouvons apprendre à vivre différemment du monde. Alors oui, le programme est exigeant, mais comme je l'ai dit au début et je le redis, cette exigence n'est que réponse à la grâce première et démesurée de Dieu pour nous. Aussi ma prière, frères et sœurs, est que le Seigneur nous donne d'expérimenter tout à nouveau la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de son amour pour nous manifester en Christ, afin que transformé dans notre regard et nos motivations, nous ayons pour seul désir de le suivre et de le servir dans le monde et dans son corps qui est l'Église. Soyez bénis et en bénédiction.